On s'est dit, hey, mais c'est now or never.
Depuis, Eric et Stéphane se sont procurés d'une machine qui, au lieu de créer des bâtons en 1h20, les fait en 8 minutes seulement. Mais comment définit-on un bon bâton de baseball?
Ça, c'est une question complètement identique au centième d'once. Différentes couleurs. C'était drôle, les joueurs, ils préféraient un ou l'autre. Puis quand finalement, on leur a dit c'est le même bâton, là, ils faisaient wow. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Tant ou son temps que ça va bien avec ce bâton-là, c'est le meilleur bâton du monde. Mais si ça fonctionne pas, là, on essaie de changer. Comme Vlad l'a fait l'année passée, son bâton 7-8 fois. Pour répondre en bonne réponse, d'ailleurs, c'est vraiment la qualité du bois. Donc, ce qui fait en sorte qu'un bâton, on les voit dans les magasins à 300$, puis on dit, waouh, c'est quoi? Pourquoi c'est si cher que ça? C'est vraiment la qualité du bois. Et en termes de qualité, c'est vraiment comment droit le grain peut être. Donc, quand on utilise les érables, le grain est très, très, très dense, très, très collé. Et le plus droit veut dire qu'il va être le plus solide. Donc, les compagnies de pads de baseball, ces bâtons-là sont très rares. Donc, c'est pour ça qu'on... sont beaucoup plus chers. Ouais. Et ça, c'est vraiment, là, en termes de qualité, c'est le bois le plus parfait qu'on peut avoir d'ailleurs.
Moi, ce que je me demandais aussi, mais je reviens un peu au nom T-Bats. D'où ça vient, ce nom?
Ouais. T, c'est pour mon premier-né, Théodore, puis Bats.
Ça arrive de faire des mauvais bâtons et qu'après, il faut recommencer ou non?
Ça arrive très souvent, oui. Surtout au début, avec le trial and error, avec les différents types de machines qu'on avait, il y a beaucoup, beaucoup. Puis dans le fond, ce qui arrive avec le bâton, c'est que de l'extérieur, il peut paraître parfait. Puis là, quand on commence à le tourner, il peut avoir un nœud à l'intérieur, il peut avoir des imperfections. On les regarde vraiment à l'œil. Et c'est complètement fait avec nos mains à la fin. Donc, s'il y a jamais une imperfection, il s'en va dans la pile, pas garbage, mais dans la pile, selon le vent, pas.
Aujourd'hui, T-Bats collabore avec les Titans d'Ottawa. Ils ont réussi à se positionner dans le monde du baseball local de la région. Projet pour le futur, se rendre aux ligues majeures.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJM.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les immigrants francophones du Manitoba ne tiennent plus en place. Près de 1000 d'entre eux ont quitté ces 5 dernières années la province au profit d'autres destinations canadiennes. Cet exode francophone préoccupe les unités provinciales, bien sûr, et certainement les minorités francophones de la province déjà trop peu nombreuses. Le Manitoba, qui ne compte que 47 000 personnes dont la langue maternelle est le français, estime le ministère de l'Immigration de la province. Asna Eloudi a quant à elle fait le chemin inverse. Cette immigrante marocaine arrivée au Manitoba il y a à peine 60 jours, a fait le pari de réussir sa transition transatlantique de Saint-Boniface au Manitoba. Notre journaliste Iman El-Hadji lui a tendu son micro.
Le projet d'immigration, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Prendre la décision d'immigrer, de quitter ton pays, tes amis, ta famille, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, vous faites des sacrifices, vous mettez des sacrifices à côté, mais en contrepartie, vous cherchez des récompenses, plutôt. Donc, ce qu'on cherche, c'est une qualité de vie. On cherche un soutien moral, psychique, en termes que, comme j'ai dit, job, surtout quand francophone, au sein d'une province qui est anglophone. Donc, je cherche ce soutien et l'accompagnement pour avoir un job qui convient à mes compétences, bien sûr, et mon parcours académique. Aussi, on cherche aussi un accompagnement en termes d'information, comment rendre notre famille épanouie, heureuse, dans un environnement qui est tellement et radicalement différent de la mienne.
Pouvez-vous faire part de votre expérience personnelle en tant qu'immigrante francophone au Manitoba et des facteurs qui ont influencé votre décision de vous installer ici?
Ma famille a été nominée par la province du Manitoba et on est chanceux. Pour moi, le Manitoba, ça me convient et me convient à mon caractère, à ma personnalité. Pour choisir une province, il faut avoir plusieurs critères, à savoir la diversité de jobs, aussi le marché d'emploi, aussi les conditions de vie. Est-ce qu'il est adéquat avec une famille avec des enfants ou non? Ben pour moi, le Manitoba, il est adéquat pour une famille plus que des célibataires. Ça ne va pas dire que les célibataires ne peuvent pas vivre ici, mais elle est plus convenable pour des familles. Il a ce style qui est assez doux, assez simple, donc elle convient aux familles avec des enfants. Aussi, ce qui peut influencer la décision, c'est la question du climat. Mais je me dis que on est arrivé au mois de juin, jusqu'à maintenant on est épanoui. On attend l'hiver, on va voir. Maintenant que vous êtes bien installé au Canada, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui auraient l'intention d'immigrer au Canada? Comme nouvelle arrivante, bien sûr, je ne suis pas apte pour donner des conseils généraux, mais je peux dire qu'il faut s'armer de patience à tous les immigrants. Il faut être patient, patient, patient. Il faut bien développer la langue anglaise aussi. Il faut amener avec eux un fonds le maximum possible. Donc, tant que vous avez un fonds d'argent qui est assez bon, vous avez le temps pour s'adapter et s'intégrer facilement et aisément. Donc aussi, j'aimerais bien dire pour tous les immigrants de rester toujours optimistes. Parce que tant que vous avez décidé d'émigrer et de quitter votre pays et venir là, bien sûr, vous avez des raisons qui vaut le coup. Donc il faut rester optimiste, rester focalisé sur vos objectifs, amener de l'argent, amener votre langue avec vous.
Alors, nous vous remercions énormément du temps précieux que vous avez accordé aujourd'hui, Hasna.
Avec plaisir. Merci à vous aussi.
Cet entretien a été rendu possible grâce au programme IGN.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La 39e édition du festival Innu Nikamu a pris son envol le 1er août dernier au Québec. L'événement qui se tient à Maliotenam, près de Sept-Îles en Haute-Côte-Nord, et jusqu'au 6 août prochain, plonge au cœur de la culture et de l'univers autochtone québécois. Le festival, qui semble se tailler une réputation enviable auprès des agents et promoteurs culturels qui viennent y débusquer de nouveaux talents, le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants et le regroupement des événements majeurs internationaux ont d'ailleurs annoncé leur visite cette année. Le festival Innu Nikamu, qui présente cette année encore quelques grandes pointures de la musique autochtone et québécoise, comme Florent Volant, Natacha Canapé-Fontaine, Roxane Bruno, Richard Seguin et Émile Bilodeau, Maxime Jaudoin n'a pas raté l'occasion d'en parler avec Normand Junior Tchirniche-Pilot, le coordonnateur du festival Innu Nikamu.
Le but au départ, c'était de promouvoir la langue, donner une plateforme, une scène pour les artistes autochtones qui commençaient à chanter dans leur langue. Avec le temps, c'est devenu, il y a quelques années, je dirais, c'est devenu surtout un moyen de se rapprocher, mettons, de nos voisins, les Québécois. Puis on s'est rendu compte, en faisant des actions dans ce sens-là, que le public, de plus en plus, était composé de Québécois ou de touristes de l'extérieur du pays. Fait que c'est vraiment devenu un lieu de rassemblement, d'harmonie entre les peuples. Puis il y a toujours une très, très, très grande place pour les artistes autochtones qui continuent à chanter dans leur langue. Mais on donne aussi la place là, à des artistes québécois pour attirer des gens. Puis nous, quand le site est plein, bien, ça permet aussi à nos artistes de performer devant, de se faire connaître, puis de performer devant plus de monde. Puis en gros, ouais, c'est ça.
Oui, et en plus du public, là, on peut mentionner qu'il y a des producteurs et même des agents qui font la route pour s'imprégner de la culture. Et parmi la visite attendue du festival, on parle du Refrain, qui est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, et ainsi que le RIMI, donc le regroupement des événements majeurs internationaux. Donc oui, le festival, on peut dire qu'il prend de l'ampleur.
Oui, vraiment beaucoup, surtout cette année. Puis c'est une première là, à Innu Nikamu, puis peut-être même au Québec. On a un volet pro, là, 100% autochtones, donc les gens de la SEDEC, de Musique Action, de plein d'organismes, de la Fondation Socan, de Socan. On va avoir des représentants aussi de festivals du Québec qui viennent entendre les artistes autochtones dans le cadre de vitrines musicales qui vont avoir lieu le 1er et le 2 août. Pour nous, ça va être une belle occasion de vendre les artistes autochtones et possiblement se faire booker dans des festivals au Québec l'an prochain ou dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que c'est vraiment une première. Puis le but de tout ça aussi, c'est de donner des outils aux artistes pour la production d'albums, la diffusion de leur musique. Et ça permet aussi aux gros joueurs là, de l'industrie d'apprendre à nous connaître puis de voir c'est quoi la difficulté des artistes autochtones, tu sais, c'est comment qu'ils vivent leur musique puis comment que comme à quel point ils bûchent fort pour être capable de sortir un album. Fait que le but, ça va être vraiment de leur donner des outils pour diffuser leur musique, produire des albums, et que ça va être une belle occasion pour du partage. Moi, je vois dans un festival au Québec, puis que je vois qu'il y a un autochtone qui est programmé, on ressent, en tant qu'autochtone, on ressent beaucoup de fierté, qu'on soit reconnu comme ça. Puis en parlant de fierté, une des raisons pourquoi qu'on invite, mettons, les plus gros noms artistiques là, au Québec, pourquoi on invite les Gypsy Kings à Manutenam, c'est la fierté. C'est parce que c'est une chose, exemple, d'aller voir Roxane Bruno, Émile Bilodeau, Soulja, Loud, mettons, au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. Mais c'est une toute autre expérience quand c'est eux qui viennent à la maison performer. Il y a comme un immense sentiment de fierté qui vient par rapport à ça, d'être capable de les faire venir ici, à Manutenam. Quand les Simple Plan sont venus en 2016, moi, c'est ça que ça m'avait fait. Là, je me dis, OK, là, on nous entend. Là, on nous voit. Là, on nous écoute. C'est ça que ça amène comme sentiment d'inviter des noms d'envergure comme ça. Puis on a aussi des légendes autochtones, comme Florent Volant,
oui.
Claude McKenzie, William Taguna, qui est un chanteur inuit des années 70-80, qui est vraiment une figure, une légende. Puis il va y avoir de tout, là, des artistes émergents que ça fait un an, quelques années, quelques mois qui ont commencé à faire de la musique. On a de la place aussi pour les enfants qui veulent démontrer leur talent sur la grande scène. Que ce soit de la magie, que ce soit de la danse, du chant, jouer un instrument. Fait qu'on y va vraiment dans toutes les directions, toutes les générations.
Et justement, au niveau de la programmation, là, vous l'avez mentionné un petit peu, là, Florent Volant, Richard Séguin, Natacha Canapé-Fontaine, Matène, Claude McKenzie, aussi Roxane Bruno et Émile Bilodeau, donc un peu plus artistes québécois de ce côté-là. Mais les artistes québécois, justement, quelles sont leurs perceptions à eux du fait de venir performer sur votre territoire comme tel?
Oui, ben, leur perception, je pense qu'ils vont être surpris de comment ils vont être accueillis, autant dans le backstage, autant par le public. C'est pas arrivé souvent que ces artistes-là jouent devant un public dans une communauté autochtone. On n'est pas au Centre Bell, on n'est pas au Centre Vidéotron, on n'est pas en ville. On est dans un village, une communauté autochtone en plein cœur du village. Ça fait que ça va être une belle expérience pour eux, je pense, puis ils vont être surpris là, de comment qu'on va les accueillir. Ouais, il y a plusieurs sortes de visiteurs. Il y a les gens qui viennent au festival, qui partent de Montréal, d'Ottawa, de l'Estrie, du Saguenay, de Québec, de partout. Il y a aussi des gens qui y allaient aux îles Mingan, puis en fouillant un peu, ils ont vu, il y a un festival, OK, on book des billets, on book un camping, on book... Fait qu'il y a vraiment de tout. Il y a des touristes aussi de l'Europe qui passent par là. Puis juste un exemple, rapidement comme ça, on a une bénévole l'an dernier qui était là pour... qui est débarquée de la France pour venir voir le festival. Fait qu'elle a travaillé avec nous. Cette année, elle revient. Fait que ça crée vraiment des beaux liens. C'est un festival. C'est plus que de la musique. C'est vraiment une expérience. C'est à vivre, à ressentir. C'est vraiment un événement d'envergure où il y a des belles amitiés qui se créent long terme. Il y a de la belle magie. Il y a beaucoup d'enfants qui courent partout, des aînés. C'est un festival sans alcool. Fait que c'est vraiment accueillant, c'est invitant, puis on invite évidemment tous les gens de la Côte-Nord, autochtones et non-autochtones, nos voisins, les Québécois. Là, fait que tout le monde est la bienvenue au festival.
Monsieur Normand Junior Tirnich-Pilot, merci beaucoup. Et l'invitation est lancée à la population du 1er au 6 août prochain.
Merci pour votre appel.
C'était Maxime Jaudoin, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Et bien voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Merci à nos collaborateurs tristes cette semaine que sont Marie-Hélès, Marine Autogali, Iman Elagi et Maxime Jaudoin, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Merci de nous avoir tenu compagnie. À la semaine prochaine.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à canada-lji.